Chapitre 17. Audra évoluait dans un autre monde. Après avoir traversé le centre de Goussainville, elle roulait désormais dans un quartier à l'écart, côté vieux village, avec des rues exsangues, bordées de façades ravagées, taguées, aux fenêtres recluses, derrière des volets clos ou démolis. Cette partie avait été vidée de sa substance même, ses habitants. Et pour cause, une piste de l'aéroport Charles de Gaulle se déroulait à une centaine de mètres côté sud. La jeune femme suivit le décollage d'un avion dans un bruit insupportable de réacteurs, persuadée que depuis les étages de certaines habitations, on pouvait apercevoir les voyageurs à travers les hublots. Le GPS l'orienta vers une rue au revêtement craquelé qui paraissait plantée au milieu d'une forêt. Les arbres, le lierre, les arbustes défonçaient la brique, jaillissaient des toitures, des fenêtres, en un signe de revanche de la nature sur l'homme. Les maisons en ruine se succédaient, et dans cette hécatombe, quelques villageois avaient refusé de quitter les lieux. Aussi brillaient çà et là de timides lumières. Prost occupait la maison contiguë à une décharge de métaux. Des montagnes alambiquées de ferraille s'élevaient en chignons crépus. Des portières, des pare-chocs formaient des œuvres d'art démentes. Essuie-glace en action, Audra circula une première fois devant un grand portail vert en métal plein, casé entre deux hauts murs graffités qui empêchaient de voir de l'autre côté. Il protégeait l'habitation jusqu'à la maison voisine, sans aucun doute abandonnée depuis des années. Elle opéra un demi-tour plus loin, au bord des champs. De l'autre côté, les lumières de l'aéroport, les tours de contrôle, le balai infernal des avions. Audra hésita. Elle se souvenait des mots de Charcot, mais elle était sur place. La décharge était accessible et il lui semblait qu'un simple grillage la séparait de la propriété de Prost. Elle ne risquait rien à aller voir. Elle rangea sa voiture dans un endroit discret, coupa le contact et redescendit la rue Fantôme, le nez dans son blouson. Cette pluie perpétuelle lui tapait sur le système. Même la décharge était à l'abandon. Elle s'y engagea. Des flaques de boue accueillirent ses derbies entre les carcasses de lave-linge et de scooters désossés. Elle s'en voulait de s'être habillée comme une hôtesse de salon de loto avec ce tailleur ridicule. Elle qui croyait passer la journée au bureau à poser ses cadres et à écumer les couloirs pour les présentations. Elle sursauta lorsqu'une fusée noire fila juste devant ses pieds pour se réfugier sous une portière. Un rat. Audra accéléra le pas et veilla à ne pas se tordre la cheville. Des objets sourdaient de la boue comme des pierres tombales. Vers le fond de la zone, elle put accéder à une partie de grillage à l'agonie. Elle n'eut qu'à l'écraser de tout son poids pour le chevaucher. À présent, elle évoluait sur le terrain de Prost. Un chaos de mauvaises herbes et de ronces voraces qui lui lacéraient le pantalon et s'accrochaient à ses chevilles. Elle pourrait jeter son tailleur à la poubelle. Elle progressa au jugé, sans lumière, comme empêtrée dans une jungle hostile. Le sol bourdonna au décollage d'un avion. Si l'enfer existait sur Terre, ça devait être ici. Elle arriva sur un sol de gravier, fit le tour de la maison, plongée dans l'obscurité, et ne détecta rien en rapport avec la présence de chiens. Ni cabanon, ni enclos, ni niche. À l'évidence, elle faisait fausse route. Elle aurait rebroussé chemin si la porte arrière, en piteux état, n'avait pas été simplement maintenue fermée à l'aide d'une grosse pierre. Une invitation à pénétrer à l'intérieur. Elle fit rouler la pierre et se contenta de passer sa tête dans l'embrasure. Deux voix se battaient en elle, l'une qui la poussait à entrer, l'autre à rebrousser chemin. Ses soupçons ne reposaient sur rien. Elle se trouvait sur une propriété privée. Or, s'aventurer là-dedans, seule et sans armes, devenait dangereux. Elle faillit abandonner quand elle perçut d'étranges bruits semblables au raclement de gorge d'un silicosé. Ils provenaient de l'étage. Comptait-elle bousiller sa carrière dès le premier jour? Peut-être bien, oui. Peut-être que plus rien n'avait d'importance après tout. Tout ça, sa fuite du Sud, sa venue à Paris, son nouveau job, n'était-il pas qu'une mascarade? Se prendre une balle dans le ventre ne l'arrangerait-il pas au final? Et pourquoi n'avait-elle pas embarqué son arme de service? Mais peut-être aussi que son geste sauverait la vie de deux personnes enfermées dans des cylindres. Elle se devait d'aller voir. Alors, elle frotta ses chaussures dans l'herbe et les graviers, chassa les gouttes d'eau de son blouson pour éviter d'abandonner des traces. Elle entra et alluma la torche de son portable. L'intérieur sentait le salpêtre et le cannabis. La tapisserie d'un autre âge ondoyait sur les murs. Des gouttes perlaient sur le papier. Un vrai trou à rats. La toux de silicosée s'intensifia lorsqu'elle s'engagea en direction de l'étage. Vu l'état du bois, elle se demanda si ses chaussures n'allaient pas traverser les marches. Une fois sur le palier, une forte odeur d'excréments et d'urine l'alerta. Elle se précipita dans la première pièce du couloir et pointa la nuit de sa torche improvisée. Trois paires d'yeux avalèrent la lumière. Audra manqua de tomber à la renverse quand les crocs jaillirent vers elle avant de se heurter à des grilles au fil de fer épais. Elle se tenait face à deux pitbulls et un staff enfermés dans des cages séparées qui reposaient elles-mêmes sur des palettes. Des gueules lacérées de vieilles blessures rosies, des empreintes de crocs dans le pelage, des corps musclés passés à la moissonneuse. L'un des trois chiens avait un œil crevé. Les bêtes, debout sur un lit de paille souillée, aboyaient avec rage. Pourtant, seul un râle infime filtrait de leur mâchoire. Aucun doute, cet enfoiré de Prost leur avait coupé les cordes vocales. Tout tournait en accéléré dans la tête d'Audra. Prost était impliqué. Il avait volé les palettes, creusé dans la forêt, et il possédait des chiens de combat en piteux état. En apercevant des barres de fer et des battes de baseball posées contre un mur, elle devina le calvaire de ces bêtes. Audra connaissait les techniques de débarking qui rendaient les chiens muets, mais pas moins agressifs. Pratique pour l'élevage ou les combats clandestins. Elle s'approcha pour essayer de distinguer l'inscription sur le carton collé au-dessus de l'une des cages. Elle crut que les animaux enragés allaient défoncer leur prison et elle songea à leur victime nue qui avait succombé aux morsures. La pire des morts. Il était noté « Te plante pas cette fois, cette cage-là, pas une autre. D-192, parking du Fait, Chauvry. Ce soir, 22h, gros enjeu. Sois à l'heure, je te rejoins direct depuis le boulot. Fais rien sans moi. » Prost n'agissait pas seul. Un individu devait embarquer l'une de ces cages pour un rendez-vous dans à peine 1h30. Plus de temps à perdre. Il fallait fuir et tout relater à son commandant. Mais avant, elle prit des photos jusqu'au seau sur l'une des palettes de chez Hefner Transport. Elle entendit le bruit d'un moteur dans la rue, puis le ronflement persistant d'une voiture à l'arrêt devant la maison. Elle se précipita vers la fenêtre de la chambre de l'autre côté du couloir. Une ombre ouvrait le portail. Deux phares blancs éclairèrent alors la façade et l'intérieur de la pièce. Audra bascula sur le côté, le souffle court. La silhouette remonta dans le véhicule et s'avança sur la propriété. Audra pensa à la pierre déplacée à l'arrière de la maison. Le type allait s'en rendre compte. Plus le temps de réfléchir. Elle se rua dans les escaliers et gagna la porte. Le moteur venait de s'éteindre. Un claquement de portière. Le raclement du bas du portail contre les graviers. Elle remit la pierre à sa place et fila dans l'obscurité du jardin sans se soucier où elle posait les pieds. Les ronces lui lacérèrent le pantalon, les chevilles, les genoux, jusqu'à sa chair. Elle chuta de tout son poids, les mains droit devant, en plein sur les épines. Elle se retint de hurler quand les ronces lui mordirent la chair. Le feu du poison se déversait dans son corps. Elle ne bougea plus. 5 mètres devant elle, l'homme équipé d'une lampe torche arrivait. Il fit rouler à son tour la pierre et pénétra à l'intérieur. Quand la lumière jaillit de l'habitation, Audra se releva avec difficulté en grinçant des dents tant elle souffrait, et fila dans les broussailles, direction le grillage de la décharge. 5 minutes plus tard, elle regagnait sa voiture en boitillant. Elle s'y enferma et poussa un cri de douleur. Elle constata l'état de ses mains, de ses poignets et surtout de ses jambes sous son pantalon. Un carnage. Du bout des doigts, elle retira quelques épines, frotta le sang avec un chiffon pris dans la boîte à gants. Elle se soignerait plus tard. Elle s'efforça de décrocher son téléphone et composa le numéro de Charcot.
« Commandant ?
Oui, je suis encore là-bas. Écoutez, Prost est impliqué. 3 chiens dressés au combat sont enfermés chez lui. Oui, tout va bien, Oui, écoutez-moi, commandant, s'il vous plaît. J'ai une adresse, je crois qu'ils vont y faire combattre un chien. Non, pas de chien aussi musclé, mais ils sont balèzes quand même. Oui, je vous expliquerai. Mais il faut foncer. Le rendez-vous est dans à peine 1 heure et demie. »